Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Sylvie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Eh bien, merci beaucoup, avec plaisir, Priscilla.
Tu as cofondé le Labo du Moulin avec ton mari il y a 3 ans.
Oui.
Vous proposez des boissons légères et rafraîchissantes à base de kéfir de fruits. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans cette boisson ?
Comment est venue l'idée ? L'idée est venue d'une maladie que j'avais, qui s'appelle une maladie de Crohn, donc un problème d'intestin, irritation des intestins. Et donc j'ai été à un moment donné très 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 malade, et Pascal, mon mari, qui a comme des connaissances en microbiologie, il a fait un doctorat en biologie moléculaire, il a fait le lien entre le microbiote, avant qu'on en parle, et la santé, l'inflammation. Il avait des souvenirs d'avoir bu du kéfir tout petit. Et donc, lors du mariage, du baptême d'une nièce, sa grand-mère a parlé de kéfir à Pascal. Elle a dit « Écoute, j'en cherche depuis un moment, est-ce que tu n'en aurais pas ?» Et elle ne se déplaçait jamais sans son kéfir. Donc, elle nous a donné quelques grains, l'équivalent d'un bol. Et du coup, on a commencé à faire du kéfir. Et j'ai été de mieux en mieux, jusqu'à ne plus avoir de symptômes du tout. Donc, effectivement, ça a été une révolution pour moi. Un rechangement de régime alimentaire, donc j'ai arrêté de faire des gâteaux le samedi. Moi, j'étais mamie gâteau, enfin maman gâteau, j'ai arrêté de faire des gâteaux. J'ai arrêté le sucre, je me suis mis au pain au levain, aux légumes fermentés, aux produits fermentés, et ça a suffi à réguler, je pense, mon microbiote, et à faire que maintenant, je suis en pleine santé, en pleine forme. Et donc l'idée est venue du fait qu'on n'en trouvait pas beaucoup dans les magasins, voire pas du tout. Donc, j'ai voulu faire profiter tous les consommateurs de cette boisson qui fait vraiment du bien.
Et c'était à combien de temps ?
Alors, j'ai fait des crises pendant une quinzaine d'années. Hein. Et la première fois que j'ai commencé à faire du kéfir, ça fait une dizaine d'années. On a fait donc à la maison pour nous, personnellement, pour les voisins, pour les amis. Et je connaissais Scott La Cigogne, qui est un bailleur simple, qui est un grossiste en produits bio. M'a dit, écoute, si ton produit est certifié bio, on va pouvoir te le vendre. Donc, étant même à la cave, on a commencé à faire quelques cartons de bouteilles. On était en bouteilles plastiques, hein, mais il nous a vendu notre kéfir dans les magasins bio. Bon, les bouteilles plastiques, rapidement, on s'est dit, ça ne va pas être possible. Et c'est ce qui nous a vraiment mis le pied à l'étrier de chercher un local à l'extérieur pour passer en bouteille de verre, pour pouvoir mettre une machine et embouteiller en bouteille de verre. J'ai eu la chance de rencontrer Aurélien aussi à un moment donné qui nous a approché, qui a dit j'aimerais bien lancer une société avec vous. Et donc on s'est rencontrés, moi je ne le connaissais pas du tout. Hein.
Mais comment il vous a découvert ? Parce que lui il est à Paris.
Par internet, par les réseaux sociaux. Il cherchait à refaire sa vie puis à donner du sens à sa vie. Et bon, il est du marketing, donc il savait ce qui allait marcher. Je pense qu'il avait eu un 6e sens. Il s'est dit, le kéfir, ça va être un produit d'avenir, j'y crois. Il en faisait lui-même. Il s'est dit, je vais trouver quelqu'un qui se lance et je vais le faire avec lui. Ben, du coup, en l'occurrence, c'était avec elle. et on est très complémentaires. Comme on dit, donc on a l'usine en province et la stratégie commerciale à Paris.
Et il y a 4 boissons, c'est ça, différentes ?
4 parfums.
Enfin, 4 parfums, pardon.
4 parfums.
Vous avez commencé
sur la base de la même boisson. On a commencé par le parfum normal qu'on appelle le citron, qui est le kéfir nature, donc juste avec des figues et du citron. Le suivant, ça a été à la framboise. Et rapidement, on a fait plusieurs parfums pour avoir différentes couleurs. En fait, on ne s'est pas arrêté. On a même réduit. Hein. Fut un moment, on en avait 8. J'en avais au pissenlit, j'en avais à la myrtille, j'en avais aux fruits exotiques. Enfin, on en avait. Dès que j'avais une idée dans la tête, j'en sortais un. À un moment donné, Aurélien m'a dit « Bon, va falloir qu'on sabre dans les parfums. On va choisir 4 couleurs, des couleurs et des goûts qui vont bien. On a choisi ceux qui marchaient le mieux. » Et on est resté sur ces 4 complémentaires.
Si vous faites trop de boissons, ça complique en fait la logistique ?
Alors, pas forcément, mais ça complique surtout le magasin qui veut mettre dans les rayons. Il n'a pas le rayon extensible.
Oui, aussi.
Il y a toujours le consommateur qui se dit « Pourquoi vous n'avez pas la myrtille dans le magasin ?» Puis voilà, et moi, j'aimais bien.
Ouais. C'est bien compliqué. C'est mieux se fixer sur 4.
Oui.
Qui marchent. Et...
Oui, c'est déjà une petite place dans les rayons. Hein, parce qu'on a 2 formats, des petites et des grandes. Donc, ça fait la moitié du frigo pour nos boissons.
Et celle-là qui est la plus consommée ?
Alors, nous avons le duo de tête qui sont le citron et le gingembre.
Justement, est-ce que l'agroalimentaire, c'est pas un marché trop compliqué ?
Alors, il faut être du monde agroalimentaire pour faire de l'agroalimentaire, oui, effectivement. Il y a quand même des contraintes d'hygiène, il faut une veille pour la sécurité alimentaire. C'est important de maîtriser le produit au niveau de la qualité, de la sécurité, oui, pour moi. Il faut une formation en agroalimentaire pour faire de l'agroalimentaire.
On ne peut pas être autodidacte.
Oui, il faut une grosse formation à côté. Hein.
Ou avoir quelqu'un à côté qui fait.
Ou avoir quelqu'un, un expert à côté, oui.
Parce que vous avez tous les deux un parcours là-dedans.
Oui. On n'a pas eu besoin d'être beaucoup entouré parce qu'on avait les expertises en interne. Oui.
Vous avez fait le choix d'être accompagné par quelqu'un qui est dans... Enfin non, de faire une association avec quelqu'un qui est dans le marketing.
Qui est complémentaire, oui.
Et que lui, s'il voulait se lancer dans le kéfir, c'était impossible parce qu'il n'avait
pas... voilà, voilà.
Il n'y a pas l'expérience pour.
C'est une synergie, c'est comme dans le kéfir, c'est une synergie de levure et de bactéries, on a fait une synergie entre les différentes fonctions. Ouais.
Et au niveau des, justement, des rôles, vous êtes trois,
oui.
Comme fondateur.
Oui.
Comment vous avez choisi?
Bon, naturellement, hein, par son expertise. On n'a vraiment pas fait le choix, ça s'est fait tout seul. Hein.
Lui, il est le marketing, et toi, oui. Tu t'occupes de quoi?
Lui, le marketing et commerce, donc il développe la stratégie commerciale.
Et toi?
Moi, je développe, je fais le développement, je fais la qualité, la sécurité. Je suis le contact pour les instances officielles. Si je dois aller voir la BPI, la banque et tout ça, bon, c'est moi qui fais les rendez-vous.
Mmh. Et ton mari, il s'occupe de la chaîne?
Donc, en l'occurrence, je suis la présidente et j'ai deux directeurs généraux. Donc, un Aurélien et l'autre Pascal, mon mari.
Et il fait?
Et il fait la production.
La production.
Il fait la production, c'est l'éleveur de grains. C'est le garant de la qualité du produit.
Et il y a six autres personnes.
Alors on s'est lancé dans l'apprentissage avec des jeunes. Donc on a six apprentis, on en a pris deux chacun, c'est le maximum de toute façon qu'on pouvait. Parce qu'on sait trop bien que les jeunes avaient un problème avec le Covid, hein. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a donné la chance à des jeunes. Ça a été fort heureusement subventionné, donc ça a été très bénéfique pour nous pour vraiment absorber la croissance exceptionnelle qu'on a eue. Donc on a eu à choisir des profils qui sont complémentaires pareils. Donc on a un assistant en logistique, un assistant en RH et comptabilité, mais tous ces assistants et tous ces alternants, le but c'est de les transformer après en contrat, hein.
En salarié,
oui.
Et la croissance, elle a été quand?
Elle a été depuis le début, hein.
Depuis le début, ça a
marché. Depuis le début, oui, d'année en année, on a doublé.
Ah oui, c'est plutôt prometteur.
Passer de 30 000 euros à 300 000 euros, et là on va atteindre les 600 000 euros cette année. Ouais.
Ah mais c'est fois 10 et le double à chaque fois. 30 000 à 300
000. On avait dans les business plans peut-être le million très rapidement. Hein.
Ah mais là je pense qu'on est proche.
Oui.
Avant 5 ans.
Oui, l'année prochaine.
2022 ou ouais. Fin 2021.
Fin 2022.
Fin 2022.
Oui.
C'est plutôt pas mal hein, quand même.
Mm-hmm.
Et vous prenez quand même contre-pied des grandes marques qui mettent beaucoup de sucre et créent une bonne addiction pour qu'on en consomme encore et encore. Et vous avez pris le pied de ne pas en mettre.
Alors l'addiction au sucre, je pense que ça va bientôt être terminé parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. C'est évident que le sucre, c'est le poison d'aujourd'hui. Donc je ne conçois pas de faire des boissons sucrées, car c'est pas normal qu'on continue à en trouver. Même les jus de fruits, il faut en prendre un petit peu, un petit verre, mais on ne peut pas boire ça toute la journée non plus, c'est très très sucré, ça fait un choc sur l'organisme. Et le fait de faire du kéfir, c'est effectivement une boisson qui n'est pas sucrée, mais ce n'est pas le seul argument, ce n'est pas seulement parce que c'est pauvre en sucre, c'est vraiment parce que c'est vivant. Et ce côté vivant, le fait de faire une boisson fermentée, c'est une des rares, une rare boisson qu'on peut trouver sur le marché qui contient des bactéries naturelles dedans.
On le voit au fond de la bouteille.
On a trouvé des jus de choucroute ou des jus de légumes fermentés, mais bon, à faire boire, c'est pas terrible.
Non, merci, jus de choucroute, je trouve pas ça très sexy en fait.
Non.
Et vous êtes aujourd'hui dans le Monoprix, au Monoprix?
Oui.
Vous êtes au Biocoop, dans des petits restaurants?
Alors au Biocoop, on est en direct avec les magasins, pas encore à la centrale.
D'accord. Ah, c'est un objectif peut-être avec la centrale?
Bon, effectivement, je crois que tous ceux qui sont dans le bio, l'objectif, c'est dans la centrale de Biocoop. Hein. Mais ce n'est pas le seul cheval de bataille. Hein. Faut pas mettre tous les deux dans le même panier. Hein.
Il y aura qui d'autre?
mais des gens avec qui on a, comment dire, qui ont une éthique, avec qui on n'a pas peur de vendre notre produit, quoi. Qui sont prêts à l'accepter, à l'expliquer. Donc on a un partenariat avec, avec l'Eau Vive, avec des distributeurs qui vendent dans des magasins spécialisés.
Mmh. Ça, c'est le travail d'Aurélien.
Dans les magasins spécialisés où bah, on peut poser des questions au chef de rayon, avoir des réponses, et peut-être même goûter le produit, parce qu'on fait beaucoup d'animations pour essayer de faire goûter.
Et c'est Aurélien qui va chercher des contrats avec des boîtes.
Oui.
Enfin, des distributeurs, pardon.
Voilà, oui, oui, c'est vraiment la tâche d'Aurélien qui fait très bien. Donc, il connaît le monde de la distribution, donc il sait comment les aborder. Et c'est beaucoup de préparation, hein. C'est des journées de préparation pour avoir les bons arguments, pour faire la bonne étude de marché, le bon marketing, d'avoir les bons mots, et en parallèle de travailler l'image. Donc c'est le travail de la marque, c'est le travail de l'image, c'est la force de la marque.
Oui, parce que se présenter dans une grande enseigne, on ne peut pas faire ça n'importe comment.
Ah oui, il faut une crédibilité. Oui.
Et au niveau des restaurants aussi.
Oui. Alors, on a fait des salons aussi. Hein. Ce qui est important, c'est de se faire connaître sur les salons. Donc, le NatExpo, on a postulé au concours de NatExpo Challenge à l'époque. On a eu un prix. Donc, ça donne aussi une reconnaissance. Et on a été identifié par les distributeurs.
Et vous montez un stand, c'est quoi, à la Villette ou à Paris?
À Paris, oui.
Et ouais, vous avez eu
un... On a eu
un prix.
Un prix et surtout bah, une visibilité, quoi. La chance d'avoir un stand et de se faire connaître.
Oui, parce qu'il y a quoi, les grands distributeurs qui passent ou pas?
Ah, bah tout le monde. Alors là, il y a tous les distributeurs de France qui passent, hein, qui sont venus passer nous voir. Oh, on va voir les petits qui ont le prix. Et là, on les a tous vus passer. On a eu toutes les cartes de visite, tous les contacts. Et là, c'est bon, c'est plié pour 3 ans. Hein.
Ouais, mais c'est fou, ouais, comme c'est important.
Ah, bah les salons professionnels, c'est important. Et c'est un peu dommage avec le Covid qu'il n'y en a plus. Hein. Ça fait vraiment un tort parce que c'est un lieu d'échange et de contact et de publicité qui n'y a pas d'égal. Hein.
Parce que j'ai eu le CEO pardon, de Begelstein, oui. Et au tout début, ils n'avaient plus d'argent pour monter un grand stand, etc. Et ils sont venus avec des images des bagels.
Oui.
Et il a dit qu'il était entre McDo et tout. Il y avait des stands, il y avait des fontaines, des majorettes, et eux, ils étaient là tout seuls avec
les petites photos.
Oui, et tout le monde était là, on peut goûter, etc. Et eux, ils sont très francs, ils ont dit on n'a rien à manger. Aller chez McDo. Je me dis, c'est quand même tellement fou. Mm-mm. Parce qu'il m'a dit, ça coûte tellement cher.
Ah oui, ça coûte cher. Oh. Ah ben, on n'avait pas les moyens de se payer le stand. Hein.
Vous avez fait comment?
Eh ben, en gagnant le concours, on avait droit à un stand. Il faut faire des concours. Des concours et des concours.
Il faut être stratégique, en fait.
Il faut être stratégique. C'est une stratégie. Les concours, c'est une stratégie. Hein.
Parce que je me dis, si on n'avait pas l'argent, je me dis, ça a coûté genre des milliers d'euros.
Combien? 7 000, 10 000?
Ouais, je m'en doutais, je voulais dire 10 000, je pense. Oui, il faut les sortir, 10 000, pour
juste être... Oui, il faut les sortir, oui.
Et qu'est-ce que tu as appris en te lançant dans l'entrepreneuriat?
Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'il fallait savoir beaucoup de choses, qu'il fallait faire beaucoup de choses, qu'il fallait savoir déléguer, et qu'il faut surtout prendre soin de soi, et c'est le plus compliqué.
C'est dur de déléguer?
C'est dur pour moi, oui.
Ouais, faut faire confiance à d'autres personnes.
C'est pas de faire confiance, parce que naturellement je fais confiance à tout le monde. Hein. C'est de bien former, enfin de passer le bon message. Ça demande. Enfin, pour moi, j'ai besoin d'être sûre que la personne à laquelle je vais déléguer une partie, elle ait tous les tenants aboutissants. Donc pour moi, c'est de l'apprentissage. Donc c'est pour ça que l'apprentissage, ça m'allait bien. C'est qu'en fait, j'avais le temps, ou j'ai toujours le temps, de transférer ce savoir, parce que pour moi, c'est très important. Et je me force à faire beaucoup de. Comment dire, de faire des processus, de faire des procédures, de monter tout le système d'ingénierie de l'usine et des services. Et c'est très très long. Et ça, on ne peut pas le déléguer à quelqu'un, c'est un travail d'équipe. Donc c'est pas forcément de la délégation, c'est vraiment de la coordination.
Donc tu as appris à gérer des process, à transmettre.
Ah bah c'est de la gestion de projet, ça, oui, ça s'apprend et c'est essentiel.
Tu préfères être. Entrepreneur ou salarié?
Entrepreneur. Ah bah, ça, la question se pose pas.
Mais est-ce que c'était un rêve? Tu t'es dit un jour, ouais, je veux être entrepreneur, un jour, je vais créer ma boîte, ou c'est venu, ben voilà, comme ça?
Alors, c'est venu comme ça, c'est pas forcément un rêve, c'est vraiment un constat et la finalité et une chance et pas forcément un rêve parce que c'est pas un rêve tous les jours non plus. Mais c'est une mission. Je pense que c'est les derniers temps avec un peu tout ce qui se passe partout et on a avec des gens comme moi qui ont 50 ans qui ont une expérience, on se sent légitime de devoir faire des choses autrement que les autres et de participer à une mission qui est de changer les choses, quoi.
Et parce que tu as d'autres projets.
J'ai d'autres projets, ça c'est un des projets, mais c'est de changer l'alimentation pour demain.
C'est ça ta vision.
D'être influenceuse dans l'alimentation qui fasse du bien et qu'on arrête de faire de l'alimentation ultra transformée, riche en additifs.
Et t'as-tu eu ce combat en toi, même en étant pas entrepreneur?
Pas toujours, parce que j'ai commencé ma carrière dans l'industrie agroalimentaire dans les années 80, on pensait pas à tout ça. Hein.
Oui, c'était pas...
Alors c'était open bar, là, c'était... pas du tout. J'étais contente d'aller au McDo, en fait, à l'époque c'était une liberté aussi pour les gens. Le fait de ne pas devoir être obligé de cuisiner, de pouvoir y aller manger rapidement, il y a une époque on ne se posait pas les questions.
C'est comme un peu le plastique. Hein.
C'est comme le plastique, on ne se posait pas de questions. Maintenant, on ne conçoit plus d'acheter des bouteilles en plastique.
Il faut savoir qu'on meurt plus de surconsommation alimentaire que de malnutrition.
Bien sûr, oui.
Et ça, beaucoup de personnes ont du mal à le réaliser. C'est vrai qu'il y a des villes en Amérique où il n'y a aucun magasin qui vend des légumes.
Alors, ça s'appelle un désert alimentaire.
Voilà, c'est ça. Oui.
Et ça, c'est dramatique. Hein. Mais ça, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme et l'UNICEF aussi a fait un rapport pour les enfants des villes, qui sont dans des déserts alimentaires, qui n'ont pas cette chance d'avoir une alimentation et d'avoir accès à une alimentation saine, qui n'ont que des fast-foods et c'est dramatique.
Parce que je me rends compte que les problèmes alimentaires et de santé, en fait, c'est tout petit.
Ça poursuit avant 3 ans. Ça commence même à la naissance avec l'allaitement. Un enfant qui n'a pas été allaité, il ne va pas faire un bon microbiote, il n'aura pas le bon système immunitaire. C'est l'école de l'immunité, le lait maternel. C'est la nourriture pour le microbiote et c'est naturel. Et c'est le fait qu'à l'époque, moi-même qui ai des enfants il y a 20 ans, on disait ne diversifiez pas l'alimentation trop tôt, c'est pas bon, ça fait des allergies. Mais c'est pas ça qu'ils aient des allergies. Justement, les allergies, c'est le fait de ne pas avoir fait son immunité petit. Donc il faut les mettre dans le bac à sable, il faut qu'ils mettent les mains dans la bouche. Trop d'hygiène tue notre système immunitaire, en effet, pour être plein de microbes. Et ça, on a mis beaucoup de temps à le découvrir.
C'est comme vivre avec des animaux, c'est mieux.
Oui, d'avoir un chien. Il y a des pays en Suède où la sécurité sociale paye un chien dans les familles pour qu'il n'y ait pas d'allergie. Diversifier l'alimentation très tôt. Alors, il y a même une gamme de produits pour bébés qui met exprès tous les allergènes possibles dans les petits pots.
En France ?
Non, c'est en Angleterre.
Mais j'allais dire, ça peut être ici.
Ça peut venir, pourquoi pas. Il faut diversifier très tôt et donner du tout à manger aux enfants. Mais c'est qu'au Vietnam, c'est le pays où il y a le plus de femmes qui allaitent. Et en fait, on les paye pour rester à la maison pour allaiter pendant 6 mois. Hein. Ils se sont rendus compte du bienfait que c'était et du gain économique du fait qu'il n'y ait plus de soins à donner aux bébés et qu'il y a moins de mortalité. C'était pour eux, c'est un côté économique.
Est-ce qu'en France, allaiter, c'est hyper mal vu?
Mais ça, je comprends pas. Non.
Hyper mal.
Ça, ce sera une de mes batailles. Hein. C'est pas possible.
Il y en a qui se battent justement pour ça. Les femmes sur Instagram, etc. Qui disent mais c'est pas normal en fait qu'on nous pointe du doigt. Si on est dans un restaurant et qu'on commence à allaiter notre enfant, et ben les gens ils sont pas d'accord. Et
pourquoi ils seraient pas d'accord?
Parce que c'est comme l'exhibition en fait.
Ouais, mais ça en devient un peu puritain là-dedans.
Oui, oui, oui. Là qui confondent tout en fait. Un jour, peut-être qu'on reviendra à la norme, parce qu'allaiter un enfant, c'est en fait depuis la nuit des temps. Enfin,
même après, on peut tirer le lait puis le donner le biberon qu'on est au restaurant.
Et voilà.
On n'est pas au restaurant tous les jours quand on allait non plus. Hein.
Non, mais des fois, on peut oublier, parce que je pense qu'on est, quand on est mère avec un travail, etc., on est sous le stress, on a encore de la charge mentale. Est-ce que tu as cru en arriver là?
Oui. Je pense que dès le début, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'on y arrivera, qu'on avait tout pour y arriver. Qu'il n'y a pas de raison qu'on y arrive et qu'il faut se donner les moyens et que tôt ou tard on aura une reconnaissance et on a vraiment travaillé là-dessus.
Et si
on n'avait pas cette foi au succès, on ne tiendrait pas. Hein. On a des moments où vraiment on a passé des jours, des nuits, des week-ends, on n'a pas pris de vacances, je ne sais pas combien de temps, c'est pour que ça arrive à quelque chose, c'est pas en vain.
Oui, donc vous avez eu des coups de mou? Oui.
Et du coup, avec Pascal, on s'est dit chacun, allez, on va pas pleurer, mais allez, on tient. On sait pas comment on s'est motivé, mais on a vraiment été au-dessus de nos forces.
Toi, en fait, comment face au coup de blues
Heureusement qu'on est à deux, qu'on se comprend. On est très, très proches et quand il y en a qui va pas bien, c'est l'autre qui va le remonter et inversement. Ouais. On se soutient mutuellement. Oui.
Ça vous a plus rapproché dans votre couple?
Non, on a toujours été très proches. Il y a des moments où, au tout début, où Pascal croyait peut-être moins que moi, où j'étais un peu plus vite, où on a failli décrocher, quoi. Mais maintenant qu'il a intégré, qu'il a vu que ça marchait, il est partant, quoi.
C'est quoi, c'est un profil un peu moins optimiste que toi?
Non, plus terre à terre. Pascal, c'est mon terre à terre.
D'accord.
Je suis dans la lune, il est sur la terre.
C'est bien, ça fait
ça compense.
Une balance. Il y a eu donc des doutes et des échecs?
Ah, pour l'instant, non.
Non, ça allait.
Non, un frein volontaire commercial, parce qu'on n'a pas les capacités d'absorber tous les volumes. Il faut qu'on y aille de manière en scale-up. Le kéfir, on ne peut pas du jour au lendemain faire 10 fois plus. On est obligé d'y aller petit à petit parce qu'il faut qu'on monte notre stock de grains. Donc on augmente les volumes et les ventes au fur et à mesure d'augmentation du volume des grains. Et puis il faut absorber les volumes, il faut changer de machine, il faut investir dans les machines. Et ça, bah, on le fait en investissement en fonds propres si on peut. Mais on veut éviter de faire appel à des prêts trop importants et à trop s'endetter. Donc on y va pas si lentement que ça, mais sûrement en tout cas.
Parce que là, vous produisez combien de bouteilles par jour?
Alors, je compte pas en nombre de bouteilles, c'est en litres, il va falloir faire de la conversion. Mais on fait, Pascal a lancé 12 fûts de 220 pour cette semaine. 1000 bouteilles à la... 2000 bouteilles par semaine. Oui.
Et objectif 2022?
Bah, c'est d'augmenter les capacités des cuves de fermentation et d'optimiser la ligne d'embouteillage pour la faire tourner, parce qu'elle ne tourne pas tous les jours, mais c'est de la faire tourner tous les jours. Oui.
Et justement, qu'est-ce que ça fait de travailler avec son mari?
Ça fait. Pour nous, c'est vraiment une chance d'être ensemble. On voit ça comme une chance parce qu'on a été pendant des années... chacun de son côté, Pascal travaillait les samedis, donc on ne se voyait pas beaucoup. Et le fait de pouvoir venir en même temps le matin, de partir en même temps le soir, de manger ensemble, c'est inespéré pour nous. Hein.
Donc vous en parlez tout le temps?
Ah oui, c'est notre vie. Oui. Mais on essaie de faire des coupures les week-ends. Hein. Là, Pascal a l'ambition de faire un jardin, donc il a acheté des graines, on a retourné le potager. On ne sait pas si on va y arriver, mais on va essayer de planter des légumes et les cultiver.
Oui, parce que c'est
ouais, on a toujours des rêves. Moi, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai dit, allez, vas-y, on met des poules, tout. Il dit, ah, non, mais tu sais qu'on ne va pas y arriver, c'est pas possible.
Mais c'est ça, en fait, c'est de parler d'autre chose que de la boîte tout le temps, parce que ça est comme une charge mentale.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu notre tort, c'est d'en parler un peu tout le temps. On doit sûrement saouler notre entourage. On a la chance d'avoir des enfants qui sont à l'écoute et qui sont dans. Je dis pas dans le domaine, mais qui on a voulu leur mettre le pied dans l'entrepreneuriat et leur montrer comment ça marche une boîte. Quoi.
Et ils en pensent quoi?
Oh, pour l'instant, il y en a un qui va en médecine, donc pour lui, c'est hors de question de faire sa boîte, mais le côté santé des aliments, ça l'intéresse beaucoup. Donc là, même dans l'idée éventuellement de faire de la recherche après, plus tard.
Et parce que la médecine...
Elle n'a pas fini de découvrir des choses, hein, ouais. C'est en continu.
Et on ne sait pas combien de temps... la médecine, c'est quand même dur, hein. Ça se trouve, à 40 ans, il en aura marre,
ouais,
on ne sait pas.
Ouais, ouais.
La vie n'est plus faite à faire qu'un travail.
Oui, mais en tout cas, ce n'est pas eux qui vont prendre la relève après. Hein. La relève, c'est Aurélien, ça va être nos futurs employés. Nous, on cherche des gens avec qui on va pérenniser l'histoire et transférer notre savoir.
Vous allez ouvrir à d'autres actionnaires, peut-être, ou pas du tout? C'est une contrainte. Hein.
Comment?
C'est une contrainte aussi, les actionnaires.
Pour l'instant, ce n'est pas ouvert.
Mm-hmm.
Mais... si on a des employés qui sont qu'on identifie comme où on va pouvoir vraiment transférer la boîte, ben on va les ouvrir au capital et ça sera comme ça.
Non mais genre des investisseurs, des gros investisseurs qui voudraient par exemple prendre je sais pas 10% pour je sais pas combien d'investissement.
Bon, si on peut s'en passer.
J'ai remarqué que c'est assez contraignant en fait.
Oui.
Et que c'est mieux d'être en autofinancement.
Et il faut se mettre d'accord à trois. Donc on est déjà à trois, ce sera un peu compliqué de faire rentrer encore un quatrième.
Oui. Parce après, il faut voir les parts, est-ce que vous suivez ou pas ce qu'il
non,
dit?
Non, ça va diluer nos parts respectives. Enfin, et puis c'est nos décisions, on a fait ça à 50 ans, c'est pour faire les choses qu'on a envie, comme on a envie, et qu'on ne dise pas comment les faire. Voilà, déjà. Donc c'est hors de question d'avoir quelqu'un qui va nous orienter dans notre manière de faire.
Mmh. Oui,
il faut cette liberté-là, et c'est nous qui prenons le risque. Hein.
C'est sûr qu'à 50 ans, on n'a plus envie d'être dirigé par quelqu'un.
Non, pas du tout.
Somme d'entrepreneur, c'est justement pour être...
C'est la liberté, c'est un prix. C'est un prix et on paiera cette liberté.
C'est quoi comme prix ?
Le prix de cautionner les prêts avec nos biens. Mm-hmm. Le prix de mettre tout ce qu'on avait dans la boîte. Et...
Travailler beaucoup, je pense.
Et travailler beaucoup, oui.
Travailler bien combien d'heures par semaine ?
On arrive à 8 heures, on est là jusqu'à 8 heures et c'est 5 jours sur 7, voire on vient travailler les dimanches.
Ouais, un petit jour de congé, c'est bien dans la semaine.
Ouais, c'est bien.
Ouais, pour le potager au moins.
Voilà, au moins pour le potager, pour le chat, pour le ménage.
Donc, on va dire qu'entreprendre à 50 ans, c'est cool.
Bah, c'est cool parce que les enfants sont grands, ils sont autonomes et que déjà, je dis pas que c'est une liberté, mais c'est une deuxième vie. Quand on a 50 ans, on a moins de contraintes.
Mais c'est sûr que ça en commence quand les enfants ont 3 ans, 4 ans.
Ben oui, j'ai pas cette contrainte de les emmener à l'école, de les chercher, de faire les devoirs avec.
Mais comme quand on peut entreprendre à n'importe quel âge.
À n'importe quel âge, non, il n'y a pas d'âge.
Il y a des bons et des mauvais côtés partout.
Voilà.
Tu m'as parlé de plein de valeurs que tu avais dans,
oui,
dans ton entreprise. C'est quoi ?
Alors, les valeurs, c'est transmettre notre savoir, c'est faire donner la chance aux jeunes. C'est de faire des produits qui soient bons, bio, 100%, sans arômes, sans additifs et durables si on peut. C'est-à-dire que si on va vraiment faire de la qualité par la traçabilité, par le choix des fournisseurs et par la contractualisation de nos achats. Mmh. Donc, c'est de s'inscrire dans l'alimentation de demain qui est durable.
Tu penses que c'est vraiment un enjeu ?
Ah, c'est un enjeu, oui. Et ben, je ne conçois pas qu'on puisse maintenant se lancer dans l'agroalimentaire et ne pas penser à l'impact qu'on a sur l'écologie et sur la planète.
Moi, je pense que tout business, de toute façon, doit se remettre en question là-dessus. Enfin, qui se crée. Parce
doit
que
avoir une RSE, oui. Mmh. Responsabilité sociale et environnementale.
Imagine, t'es dans la même pièce que le PDG de Coca-Cola. Vous parlez la même langue, hein, bien sûr. Tu lui dirais quoi ?
Je suis pas sûre qu'on se parlerait.
Je ne le regarde même pas.
Non, je suis pas sûre que l'occasion se donnera.
Non, mais...
Et ils sont dans un autre monde, ces gens-là.
Ah, oui.
On n'est pas du tout sur la même échelle.
Par rapport à la grandeur de leur entreprise,
oui, ils ont d'autres priorités que nous et d'autres... Notre chat à fouetter, j'ai envie de dire, quoi. Eux, ils discutent avec les actionnaires. Moi, je discute, oui, avec des employés, avec des clients, avec des fournisseurs. Quand on est entre actionnaires, on est coupé du monde.
Hein. Mais ils sont plutôt à faire leur grosse.
Mais ils sont influencés, ils ont des indicateurs. Donc j'imagine que l'alimentation de demain, c'est un indicateur pour eux. Ils ont des influenceurs au sein des entreprises, comme moi, je peux l'être au sein de mon entreprise. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus... Comment dire, crier sur l'industrie agroalimentaire parce qu'on en a besoin. Et qu'elle peut faire des choses très bonnes, c'est sûr qu'elle peut faire des choses très mal, mais qu'elle est capable, si elle se donne les moyens, de faire des choses très bien.
Et parce que moi, je pense qu'ils sont convaincus de ce qu'ils font et ils pensent être dans le bon droit, même s'ils mettent 33% de sucre.
Alors, les 3% de sucre, là, c'est quand
33.
Même la recherche du gain et du bénéfice. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas la recherche de faire du bien.
Ouais, mais moi, je suis persuadée, même les gens qu'on trouve pas cohérents avec nos valeurs, et même que c'est un désastre, pour moi, c'est un peu un désastre Coca, je pense qu'ils sont dans leur bon droit. Je pense que le PDG, il se lève tous les matins en disant qu'il fait quelque chose de bien. Bon, après, c'est bizarre, mais j'en suis convaincue. Que même Total, il se lève tous les matins en se disant ce que je fais, c'est bien, c'est cool. C'est génial, j'ai des valeurs de ouf. Ça peut être très bizarre à entendre, hein.
Bah, la responsabilité sociale des entreprises et environnementale, c'est pas très longtemps que même dans les statuts des entreprises, on peut mettre les valeurs. Toutes les entreprises, quand elles créent une entreprise, ne met pas les valeurs dans les statuts.
Ah, les met dans les statuts même.
Bah, on peut les mettre dans les statuts.
Je sais pas du tout. Mais je parle quand ils parlent.
C'est une autre force, quoi. Bah oui, mais c'est sûr que ces entreprises-là, c'est quoi leur raison d'être ? C'est quoi leur raison d'être ? C'est faire des bénéfices, non ?
Moi, je pense que c'est plus que ça. Moi, je pense qu'ils ont une force comme toi, ils ont leur valeur en disant on fait plaisir aux jeunes, aux gens, on apporte une boisson extraordinaire.
C'est une grosse machine, et puis il faut faire tourner la machine, parce que ces boîtes-là, elles ne doivent que croître, elles ne peuvent pas s'arrêter. La croissance est obligatoire. Il faut aller chercher des marchés, coûte que coûte, il faut chercher des marchés, c'est compliqué, la concurrence est compliquée. Si on n'est pas les premiers, si on n'est pas devant, si on n'est pas les plus rapides, ben on se fait dépasser.
Ah oui, c'est sûr.
Mais ils ont une stratégie, ils ont quand même racheté des boîtes qui ont une image un peu plus saine. Donc ils commencent par le rachat, c'est par, oui, par intégration des concurrents et des petites boîtes, ils vont arriver à changer leur image.
Oui, ils ont la force de racheter aussi.
Oui.
Sauf que quand on propose 2 millions d'euros...
Bah, ils ont racheté des boîtes de kéfir aux États-Unis et de kombucha.
Ah, ils se mettent là-dedans maintenant?
Oui. Ah, la moitié des rayons aux États-Unis sont des boissons fermentées dans les supermarchés.
Et t'es déjà allée aux États-Unis?
Ah non, mais c'est des études qu'on a, des études de consommateurs que même Aurélien peut avoir.
Non, mais pour voir, genre...
Ah non, mais j'aimerais bien, mais là, voilà. On a que le Covid, c'est pas trop facile, mais...
Je me dis, oui. En fait, il y a des grands magasins aux États-Unis, ça a l'air d'être incroyable au niveau du bio.
Oui, oui.
Et moi, je me dis, hein, s'il y a tellement de ça, peut-être aurait, voilà, la curiosité d'y aller. Enfin, c'est trop bien.
Bah oui, oui, oui. Non, mais faut voyager. Hein. Moi, j'ai eu la chance de voyager au Vietnam. Il faut s'ouvrir au monde, voir un peu comment ça se passe ailleurs. Relativisons. Hein.
Mais comment ça se passe, en fait? Est-ce que tu as le droit de dire comment ça se passe? Tu prends des...
Ah ben j'ai le droit, je vais même le dire, le gingembre, c'est du vrai gingembre qu'on achète nous-mêmes du Pérou, mm-hmm. parce qu'on veut pas trop du chinois, hein. Bon c'est pas que je suis contre le chinois, mais on a un peu plus de maîtrise en bio au Pérou. Il arrive chez notre grossiste adoré Scott La Cigogne, frais, nous le lavons, nous le coupons, nous le pressons et on récupère le jus.
D'accord.
Et ce jus, on va le congeler pour qu'on en ait bah, tous les mois, on fait de la fabrication, pour ne pas être obligé de le pasteuriser, en fait. On n'utilise que des ingrédients crus. Crus, non pasteurisés. Et le goût du jus de gingembre frais, mais il est sans commune mesure avec du jus de gingembre qu'on peut trouver qui a été pasteurisé, parce qu'il perd hyper en goût.
Et ensuite, pareil, les framboises, ça va être compliqué quand c'est hors saison.
Et bien pareil, on joue avec nos congélateurs parce qu'on les sait, justement, on n'en a pas toute l'année, donc on les fait rentrer quand c'est de la saison. Et c'est pas des framboises entières, c'est des framboises un peu déclassées, c'est des concassés de framboises. Et on les met dans des filets et ça s'infuse dans le kéfir et ça fait la couleur et le goût.
Mais vous avez dû faire beaucoup de tests avant.
Ah oui, des énormes tests. Ça fait 5 ans qu'on fait des tests et qu'on a testé plusieurs parfums. Et parce qu'en même temps, dans la fermentation, il y a des fruits et des parfums qui vont bien et d'autres qui ne vont pas bien. Moi, j'ai voulu faire un épice de Noël. Ça ne marche pas parce que c'est antibactérien. Donc, la cannelle, ça ne marche pas trop dans le kéfir. Et le thé vert, par contre, ça marche bien. Ça favorise la fermentation. Donc il y a des choses qui sont probiotiques et d'autres qui ne sont pas trop probiotiques. Oui.
On va dire que le citron, ça a été simple.
Ah ben, c'est la recette de base, oui. Voilà. Le citron, c'est simple.
Et il y a une des boissons sur les quatre qui a mis vraiment du temps ou tu as dû chercher.
Ah, c'est la framboise, là. Ça a mis beaucoup de temps parce que il ne faut pas la pulpe parce que ça change la couleur. Et c'est une histoire de couleur et de stabilité du produit. On n'est pas encore tout à fait stabilisé sur la couleur. Hein. Elle varie en couleur. Quand on l'a fait, elle est rose pétante et 2 jours après, elle est pâle. Et puis après, elle redevient rose. Donc, il y a des phénomènes qui se font dans la bouteille en fonction des oxydations, en fonction de la température, enfin, en fonction de plein de paramètres qu'il faut vraiment. Mais on ne veut pas mettre de colorant. On veut rester sur un produit naturel. Donc, la variation est naturelle. Mais de là à comprendre tous les phénomènes et maîtriser ces phénomènes, c'est pas, ça va arriver dans 5-6 ans parce qu'on fera ça de manière naturelle. On ne veut pas mettre de produits chimiques ou d'additifs dedans.
Mais c'est une recherche.
C'est de la recherche par expérience, par empirisme.
J'ai trouvé le bon goût, la bonne couleur, parce que j'avoue que si on fait de la framboise, c'est que ça n'a pas une ressemblance de framboise, ça ne donne pas envie au consommateur.
Oui, c'est ça. La raison d'être du labo, c'est de faire... c'est pas marqué là sur le tableau parce que c'est véritable pétillant bio vivant mais aussi bon. On se doit de faire un produit qui soit bon et acceptable. C'est la raison pour laquelle on y met des fruits dedans ou des infusions. C'est pour vraiment le rendre acceptable et bon parce que ça peut les produits fermentés peuvent être une appréhension chez les consommateurs qui ne le connaissent pas. Donc à l'ouverture de la bouteille, l'odeur, c'est déjà le premier, la première chose que fait le consommateur, c'est prendre ça et puis il sent. Mmh. Est-ce que ça sent bon ou pas? Et si on ne met pas de parfum, de framboise ou de thé vert, ça sent le kéfir, ça sent le produit fermenté. Et ça, ça peut rebuter les gens. Mmh, ça sent bizarre, je ne connais pas, je ne bois pas. La framboise, ça sent bon, donc j'ai envie de le boire. J'ai une belle couleur, j'ai un bon goût. Le gingembre, c'est pareil, ça donne une fraîcheur à l'odeur. Et le thé vert à menthe, ça sent la menthe. C'est pour vraiment, quand on l'ouvre et l'avoir dans le verre, d'avoir cette odeur et de faciliter l'acceptation du produit. Et c'est un facilitateur d'acceptation du produit, voilà.
Et entre j'ai une idée et on a trouvé le bon goût, je dirais qu'il faut combien de temps?
Un an, je dirais facilement un an, parce qu'il faut valider la fermentation et être sûr que c'est reproductible et sourcer les matières premières, les valider, être sûr qu'on peut les avoir, les analyser, être sûr qu'elles viennent du bon endroit, qu'elles sont bien faites. C'est du temps de référencement, du temps de qualification et marketing aussi.
T'as essayé 8 produits?
Oui.
Ça allait vite?
Oui, bah c'est parce qu'au début, on avait peur de rien, puis on a fait plein de choses. Et le marketing, c'était fait à la bonne franquette. Maintenant, faut quand même, vu les marchés sur lesquels on va, faut que ce soit bien cadré, bien qualifié. Donc, il y a quelques petits travaux aussi de marketing aussi derrière.
Là, aujourd'hui, vous avez la boisson kéfir. Donc, tu voudrais, toi, lancer d'autres choses?
Oui. Dans d'autres produits qui seront toujours bons pour le microbiote, qui sont issus aussi de la fermentation.
Ouais. T'aimerais lancer quand un nouveau projet?
Bon, d'ici l'année prochaine, fin de cette année, oui.
Ah oui, donc c'est déjà dans les cartons?
Ah, c'est déjà dans les cartons, c'est déjà dans les tiroirs du labo, mais je ne peux pas en parler.
Non,
il y a un an de développement. Un an de développement. Ouais.
Je me dis, entre la première idée, ok, c'est bon, c'est cool, à... on va faire un truc en plus.
Oui, parce que ça dépend du projet. Là, le projet que j'ai, il y a quand même de la recherche fondamentale. Donc, c'est un projet que je fais avec l'ARIAL et qui est subventionné par la BPI. Donc, il y a le temps de la recherche et la recherche n'a pas de temps. Mmh. L'espace-temps de la recherche, c'est complètement indépendant du marché. Donc, une découverte qui a été programmée, disait je ne sais plus qui. Il faut laisser le temps à la science de faire ses recherches. Et puis... ce qui est différent de l'innovation. L'innovation, c'est je fais un produit, mais je maîtrise bien tous les paramètres. En fait, dans les produits qu'on va développer, il y a des paramètres et des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, la réponse à ces questions va demander de la recherche. Donc là, mais on ne peut pas dire. Si on connaissait, ce ne serait plus la recherche, parce qu'on aurait déjà la réponse, quoi.
Donc, rendez-vous fin 2021.
Voilà, oui.
Pour voir la nouveauté.
Voilà.
Quel est ton plus grand défaut?
De ne pas écouter les conseils, d'en faire qu'à ma tête. Ouais.
Moi, des fois, c'est bien.
Oui, mais ça peut user. Hein.
User
l'entourage.
Oui. Ouais, voilà. Dire, toi, ça va.
Oui, moi, ça va. C'est les autres. Ouais.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire?
Qu'est-ce que je déteste faire? Les tâches rébarbatives qui n'ont aucune valeur ajoutée, oui.
Genre l'administration, la compta.
Voilà, administration, la compta, alors là...
C'est une perte de temps, personne n'aime faire ça.
Oui, c'est tout ce qui est perte de temps, tout ce qui est répétitif. En fait, moi, il faut que ça change, il faut que ça bouge.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse ou drôle à nous partager?
Je ne sais plus quand ni quoi, mais en tout cas, je me suis mélangé les pinceaux dans mes agendas, j'ai du mal à les synchroniser, puis j'ai raté des réunions très importantes où j'ai dû m'excuser platement, que j'avais oublié. Et souvent, ça m'arrive, c'est que... j'oublie les réunions qui sont planifiées et ça devient problématique. Ouais.
C'est un peu embêtant pour le business.
Oui.
Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Le meilleur conseil, c'est Pascal, c'est de faire attention et d'arrêter de prendre en charge des nouvelles choses et de se poser. On prend un week-end et on part, et on s'arrête et on fait autre chose.
Ouais, de couper.
De couper, oui.
J'ai à peu près posé toutes les questions.
Ouais, super.
Donc, merci d'avoir participé.
Merci à toi de m'avoir laissé le temps de la parole. Oui.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.